Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Élodie.
Vous êtes sans conteste l'auteur qui vend le plus de livres en France et aussi l'un des plus traduits dans le monde. On peut lire vos livres en 47 langues. Alors après, il faut s'y mettre, hein, évidemment. Vos romans se sont d'ores et déjà écoulés à 34 millions d'exemplaires. Un succès inspirant, lié au rêve. Ceux que vous aviez enfant lors de vos lectures dans la bibliothèque d'Antibes que dirigeait votre mère à l'époque. Aujourd'hui publié Le crime du paradis aux éditions Calman Lévy, c'est une histoire qui fait à la fois froid dans le dos et qui, dans le même temps, irradie car elle convoque âme sombre et sensualité. C'est l'histoire d'un enlèvement, celui d'Oscar, un petit garçon de 3 ans, issu d'une famille américaine fortunée qui passe ses vacances dans ce lieu idyllique au cœur du Cap d'Antibes en cette année 1928. Cette histoire, elle est tissée d'histoires vraies. On pense évidemment à l'affaire du bébé Lindbergh en 1932. Je vais vous laisser la raconter, cette histoire, parce qu'elle a beaucoup inspiré aussi Agatha Christie, au point de lui donner d'ailleurs l'envie d'écrire le livre Le crime de l'Orient Express.
Absolument, absolument. Oui, c'est l'affaire qui s'est passée au début des années 30, en 1932. Le héros de l'époque, Charles Lindbergh,
aviateur,
a traversé l'Atlantique, et c'est une figure américaine, mondiale même, de premier plan. Et son bébé est enlevé dans leur maison du Maine. Et cette affaire va devenir le premier fait divers mondial. Pourquoi ? Parce que finalement, les progrès techniques de l'époque permettent aux journaux de couvrir en temps réel cette affaire. Et cette affaire qui touche tout le monde, parce que quand la vie d'un enfant, effectivement, est en jeu, tout le monde se sent, de près ou de loin, concerné par ça. Effectivement, je reprends ce début un petit peu d'histoire, en le transplantant à Antibes. Et c'est, oui, moi, quand j'ai toujours été fasciné par cette affaire, depuis que, petit, j'ai vu le film, effectivement, Le crime de l'Orient Express. Je me souviens avoir cherché dans une encyclopédie du cinéma et avoir trouvé effectivement cette affaire-là.
On sent aussi à quel point votre écriture se précise eu égard à vos inspirations et à vos envies. Il y a une phrase qui vous a été dite par Christophe Granger à un moment donné. Il vous a dit « plus on avance dans l'âge, et oui, à partir d'un certain âge, le nombre de romans qu'on va signer se réduit. Et par conséquent, il se passe quelque chose de différent sur la suite de l'histoire. » J'ai l'impression que vous avez décidé d'affiner cette écriture pour être encore plus proche d'elle.
Oui, il y a cette idée finalement que passé 45 ans, on réalise que, on prend conscience que le nombre de romans qui reste à écrire est un nombre fini, et que donc vous pouvez plus faire un roman pour rien, que chaque roman en fait doit avoir un sens profond dans votre vie, doit être singulier. Et moi voilà, j'étais arrivé à un moment là de ma vie où il y avait envie d'un dépaysement complet d'abord par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui nous entoure à l'époque. En fait, je n'arrivais plus à écrire une histoire qui se passe dans l'époque moderne parce que c'était pas suffisamment dépaysant pour moi, d'où cette envie effectivement de déplacer le curseur d'un siècle sans pour autant écrire un roman historique. Je suis très peu lecteur de romans historiques, et dans le roman historique, il y a cette idée que la documentation un peu va primer sur l'histoire. Alors que là, je voulais que ça soit les personnages et l'histoire qui, bien que n'étant pas à notre époque, prime, notamment par l'émotion et l'action, sur l'époque.
La force de votre écriture aujourd'hui, c'est de nous inviter. On est invité dans le jeu. D'ailleurs, dès qu'on ouvre les premières pages, on a tout de suite un plan, on est plongé dans le jeu Cluedo, on a joué au jeu Cluedo. Mais c'est surtout qu'on devient aussi à la fois spectateur et acteur. Vous nous invitez à réfléchir, à émettre des hypothèses, à essayer de comprendre en même temps que vous.
Ouais, moi, c'est toujours ce que j'ai aimé en tant que lecteur, quand il y avait effectivement cette immersion complète. J'ai toujours pensé aussi que la littérature est un jeu qui se jouait à deux, où finalement le lecteur et le romancier faisaient chacun finalement la moitié du travail. Et encore plus dans une enquête comme ça, où vous avez effectivement, le roman s'ouvre sur une sorte de roman à énigmes, où vous avez effectivement, comme dans la grande tradition du Detection Club et d'Agatha Christie, ces interrogatoires qui permettent en fait de voir que chacun a un mobile, chacun cache un secret. Et c'est vrai que c'est très jouissif à la fois à écrire et à observer, parce qu'on a l'impression finalement qu'on a les mêmes éléments d'information que l'enquêteur.
Il y a toujours ce côté aussi écriture très cinématographique.
Oui,
on plonge, hein, par exemple, le départ, vous auriez pu nous raconter l'histoire telle quelle. Non, vous partez de ce policier, et vous, voilà, on est avec lui, attablé avec lui, on est dans sa réflexion.
Oui,
il y a comme une caméra de recul.
Exactement. Marrant que vous parliez de caméra, parce que quand j'écris, j'ai toujours en tête là, ce que disait Hitchcock. Hitchcock disait « je veux faire des films à hauteur d'homme ». Et comme si la caméra était toujours effectivement à hauteur des personnages pour être vraiment pleinement avec eux. Et ça c'est un choix d'écriture assez fort. C'est pas toujours facile à faire parce que faut trouver les bonnes scènes et comme vous dites les bonnes images pour être immédiatement dans cette action-là. En empathie avec le personnage.
Alors, on est en 1928, donc évidemment à une autre époque. Il n'y a pas de téléphone portable. Oui. Ça, c'est quand même une prouesse de réussir à travailler sans avoir cette intelligence artificielle qui nous accompagne aujourd'hui, bien ou malheureusement,
oui,
je ne sais pas.
Parce qu'elle nous fait mal, en fait. Moi, c'était pour échapper à ça aussi. J'avais ce besoin de dépaysement. Et aujourd'hui, le travail de policier, d'enquêteur, c'est beaucoup resté devant un écran. C'est pas très romanesque. Moi, je voulais retrouver le plaisir que j'ai dans les Agatha Christie, les Maigret, ce feuilleton de mon enfance qui était des Brigades du Tigre, où il y avait à la fois de l'action, donc c'est le roman d'aventure, et une enquête avec des policiers qui essayent davantage de hacker psychologiquement les pensées de l'assassin plutôt que de travailler scientifiquement comme on le fait aujourd'hui.
Il y a une recherche de l'élégance aussi, j'ai l'impression, à travers ça, parce que il y avait une vraie élégance dans les années 30.
Oui,
on faisait attention à comment on s'habillait, à comment on s'adressait aux uns et aux autres, à comment on ne rentrait pas trop dans la vie privée.
Absolument, ça a été très agréable à mettre en scène. Compliqué aussi parce que c'est une époque que je n'ai pas vécue. Et je me suis aussi fixé pour règle de ne jamais employer un mot ou une expression qui n'était pas employée à l'époque. Ça fait que le roman, ce que vous appelez, oui, il y a l'élégance de l'époque, de ces milieux-là. Il y a aussi la sonorité, finalement, la gouaille un peu, à la fois de cette époque-là et de cette région-là.
Je voudrais qu'on parle de votre grand-père, Guillaume,
oui.
Parce que quand on lit cet ouvrage, il y a aussi quelque chose qui est très marquant, c'est que vous êtes avec nous. D'ailleurs, votre double apparaît, je vais pas tout révéler, mais votre double apparaît littéraire à un moment donné. Vous avez toujours été très soucieux de laisser une place à la mémoire et à l'importance de la transmission. Là, vous avez donné ce prénom de Joseph et cette identité qui correspondait à celle de votre arrière-grand-père.
De mon arrière-grand-père, oui, qui était un absent très présent, en fait, puisque c'est quelqu'un qui est mort à la guerre en 1915. À 31 ans, il faisait partie de ces générations qui avaient déjà fait un service militaire de 3 ans et qu'on a rappelé au moment du conflit. Et pour moi, quand j'étais petit, c'était vraiment le symbole vraiment, oui, du héros qui avait une vie brève. Et mon grand-père parlait de son père toujours, voilà, avec émotion. Et finalement, en avançant dans l'âge, cette figure-là est devenue mentalement importante pour moi. Et comme la littérature finalement peut tout, eh ben elle peut ressusciter finalement cet homme, puisque je me suis imaginé que cet arrière-grand-père avait survécu au conflit et s'était engagé comme policier dans les brigades mobiles à Marseille après-guerre.
Quand vous étiez petit, vous avez toujours souligné à quel point les livres vous ont permis de voyager,
oui,
de vivre d'autres vies. Il y a une téléportation d'époque, une téléportation aussi personnelle. C'est ça votre plus grande fierté, c'est de nous transporter, vous à votre tour, de nous transporter à travers votre écriture, à travers vos histoires.
C'est-à-dire que pendant longtemps, les lecteurs me disaient voilà, merci de nous faire rêver. Et de plus en plus, c'est le mot qui revient, c'est ailleurs. Merci de nous amener ailleurs. Et on a ce besoin, cette envie de fiction, de dépaysement, d'évasion. Et paradoxalement, on est à une époque où on lit de moins en moins. Voilà, les pratiques de lecture sont en baisse, y compris chez les adolescents. Et donc tout ça est assez inquiétant. Et moi, voilà, ma mission un peu, c'est d'écrire des romans qui permettent de fédérer, qui permettent à tout le monde de partir ailleurs. Et le plus beau des compliments, c'est d'avoir redonné goût, moi et d'autres, à la lecture, à des gens qui lisaient peu ou plus.
450 000 exemplaires pour la première sortie, c'est assez fou.
C'est fou, mais on pense pas à ça quand on écrit, en fait. Vraiment,
non, mais ça en dit long sur la communauté qui vous soutient,
oui,
qui
là,
vous attend.
Oui, ça fait 2 ans que j'ai plus écrit de romans, et c'est vrai que ce sont des livres, effectivement, qui fédèrent. Ça veut dire qu'ils sont lus par des lecteurs qui ne viennent pas forcément y chercher la même chose. Vous pouvez avoir l'adolescent qui me lit parce que voilà, il a aimé mes romans précédents, il peut être fan de Stephen King, le prof de français là qui va se dire ah ben oui, Agatha Christie, la personne qui s'intéresse à l'histoire. Et aujourd'hui, on est une société fragmentée segmentée. Et c'est vrai que ce type de roman permet parfois voilà, de rassembler des gens qui, sur le papier, n'ont pas grand-chose en commun.
Vous vouliez faire un roman « Would you knit ?»
Oui.
Ça vient de l'expression anglaise « who has done it ?» Ce qui signifie « qui a fait ça ?»
Oui, oui.
Et c'est effectivement cette partie Cluedo. Enfin,
absolument.
Voilà,
oui, ça c'est un plaisir assez régressif, mais qui est remis au goût du jour avec des films, je pense à « Couteau tiré », voilà où on est, où on participe, on est vraiment partie prenante de ça, avec parfois un recul, avec un peu d'humour, sans tomber dans la caricature de ce que le Cluedo peut parfois nous amener. Mais c'est intéressant, comme disait Renoir, de voir que finalement, chacun a ses raisons, tout le monde a ses raisons. Qu'on fasse le bien ou le mal, on a tous un motif bien ancré finalement pour le faire. Et ce type d'enquête permet de mettre ça à nu, et c'est assez... fascinant par rapport aux diverses facettes effectivement de l'âme humaine.
En 2002, on découvre un auteur avec et après un nouvel auteur, même s'il y avait déjà eu un roman avant, mais c'est vrai que celui-ci, il a marqué les esprits. Et aujourd'hui, on se rend compte du chemin que vous avez parcouru, Guillaume Musso, dans l'écriture, dans cette capacité à peaufiner aussi, à nous emmener de plus en plus là où vous voulez nous emmener, parce que vous êtes un peu machiavélique par moment. Vous nous proposez des personnages qu'on pense connaître, et donc on a l'impression que c'est un peu soit un voisin, soit un ami, soit un membre de la famille. Et au final, on les découvre au fur et à mesure avec ses secrets et tout ce qui va avec. On détricote tout ça. En fait, vous nous plongez dans l'âme humaine, tout simplement. C'est ça qui vous intéresse.
Il y a une constante quand même à travers tous ces livres. C'est d'écrire tout le temps le roman que j'aurais aimé lire en tant que lecteur. Moi, il y a un processus vraiment double face. Lorsque j'écris, bon, c'est 10 heures par jour et c'est quelque chose voilà, d'assez astreignant. Et pour rester rivé comme ça devant son écran, il faut créer quelque chose qui soit suffisamment intéressant finalement pour ne pas se lever pour aller faire... autre chose. Donc, au moment où j'écris, je suis à la fois l'auteur et je suis le premier lecteur. Et je pense que c'est le fait de ne pas perdre de vue ces deux aspects-là qui expliquent le côté immersif et fluide, en tout cas, de mes romans.
Il y a un vrai hommage qui est rendu aussi à celles et ceux qui ont connu la guerre, comme votre grand-père, même arrière-grand-père, et à ces femmes qui ont... était à leur côté.
Oui.
C'est un énorme clin d'œil dans le titre, Le Crime du Paradis.
Absolument.
C'est-à-dire que cet établissement a existé, hein, l'hôtel
Eden Rock.
D'Eden Rock. C'est un hôtel qui a, à un moment donné, été transformé en lieu de convalescence pour ces infirmières américaines qui étaient sur le front.
Exactement.
Et qui ont surnommé cet hôtel comme ça, le paradis.
Oui, ça a été vraiment l'un des déclencheurs de mon imaginaire. Il y a une dizaine d'années, effectivement, en lisant, en me documentant sur cet hôtel, j'apprends ça. J'apprends qu'en 1917, cet endroit a été réquisitionné pour être une maison de convalescence des infirmières américaines de la Croix-Rouge. Et donc là, j'imagine, je vois d'un seul coup ces femmes, effectivement, revenant du front, du nord-est de la France, et qui, d'un seul coup, arrivent dans cette Provence avec ses couleurs, la mer, les oiseaux. Et le contraste, voilà, me saute aux yeux, et je me dis voilà, là, ça c'est suffisamment romanesque pour qu'il y ait un livre, une enquête, et ça fait partie effectivement de ces moments où on sait qu'on tient une idée, on sait pas encore quel genre de livre on va écrire, mais on sait qu'il faut creuser. Vous savez, Stephen King disait voilà, lorsqu'on écrit, c'est un peu comme lorsqu'on creuse pour mettre au jour un squelette. Et là, je savais voilà, que j'étais tombé sur un début d'os qui allait me mener à quelque chose d'intéressant.
L'écriture permet donc aussi de ressusciter celles et ceux qui nous ont quittés.
Oui, ça c'est...
De leur redonner corps et chair.
Exactement. Je crois que c'est l'une de mes plus grandes fiertés, effectivement, d'auteur, et des plus inattendues aussi, d'avoir fait ce cheminement avec cet arrière-grand-père que j'ai jamais rencontré, mais que j'ai ressuscité le temps des 18 mois d'écriture, et avec lequel j'ai suffisamment aimé cheminer pour finalement même avoir envie de le retrouver peut-être lors d'une prochaine enquête dans les années 30.
On a ce couple Livingston, incarné par Florence et Julianne, qui ont beaucoup de celles et ceux qui ont laissé leur empreinte au Cap d'Antibes. Vous citez Scott Fitzgerald, d'une certaine façon, vivre ensemble est plus important que vivre simplement.
Oui.
C'est ça, la morale, en tout cas l'adage, et ce qui finalement nous accompagne dans nos vies.
Oui, moi j'ai toujours vraiment eu cette peur de la solitude. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez terrifiant. Et je pense que la lecture à un moment voilà venait combler ça. L'écriture aussi est venue combler ça. Et là effectivement, on croise le chemin de personnages, notamment de ce couple, hein, inspiré d'un couple qui s'appelait les Murphy, qui a inspiré Fitzgerald lorsqu'il a écrit « Tendre et la nuit », où, bah oui, il y a cette idée, finalement, que déjà, être deux est déjà une sorte d'aboutissement en soi.
C'est toujours très compliqué, évidemment. Vous avez toujours du mal avec vos émotions là-dessus, Guillaume Musso. Là où vous appuyez, ça fait mal, c'est qu'on se rend compte que les secrets de famille, pour réussir à les effacer, entre guillemets, il faut pouvoir les formuler, les raconter. Et c'est pas chose simple que de savoir à soi-même qui on est vraiment. On est tous multiples.
Oui, oui, bien sûr. Les romans d'enquête, les romans policiers sont d'abord, lorsqu'on les écrit, des sortes d'enquêtes, effectivement, sur sa propre vie à soi. Il y a toujours un moment où on se pose la question, et parfois, on le découvre des années après, du pourquoi on a écrit ce livre, pourquoi on a écrit telle ou telle histoire. Et ce parallèle entre thriller et livre d'enquête et enquête sur sa propre vie, et à savoir presque une sorte d'auto-psychanalyse, moi, ça m'a toujours plu.
Il y a un fil rouge, quand même. C'est la quête de la liberté. C'est quoi être libre ?
Être libre, bah, c'est de dépendre le moins possible des autres, mais à la fois, ça résout pas le problème de la solitude. Oui, être libre, c'est savoir dire non, ce que j'ai dit à mes enfants aussi. Cette quête de liberté, elle s'intègre dans d'autres quêtes et d'autres contraintes, mais tout le monde n'aime pas être libre, parce que être libre veut dire souvent être seul. On rejoint l'idée développée précédemment.
Pour terminer, votre romancière Agatha Harding dit vers la fin du livre « Les bons romans ne s'écrivent pas de bons sentiments, ils s'écrivent avec la sueur, la sueur et du sang ». Qu'est-ce qui nourrit votre écriture alors ?
L'écriture est toujours compliquée. La matière première, c'est toujours le sentiment, mais le sentiment au sens large. Le roman est un art, d'abord, qui fait appel au ressenti, au sentiment. C'est pas à la base un art intellectuel. Donc la matière première est toujours une matière humaine. Qu'est-ce que c'est qui nourrit mes livres aujourd'hui ? Le désir d'ailleurs.
Et le fait d'être un amoureux avec un grand A quand même.
Ça c'est toujours effectivement, ça traverse toujours les romans avec ces deux phases de l'amour. L'amour qui épanouit et l'amour-passion qui détruit et qui fait mal. Et il faut savoir mettre le curseur au bon endroit.
Bon, la suite, c'est que Joseph et Charlie, finalement, n'en sont qu'à leur début, si on a tout compris. Il y aura une suite.
Peut-être, en tout cas, voilà, l'envie est là. Si l'envie du romancier croise celle de l'envie des lecteurs, pourquoi pas une histoire quelques années après, peut-être pendant la montée des périls dans les années 30.
Merci beaucoup, Guillaume Musso, d'être passé dans Le Monde Élodie sur France Info. Votre dernier ouvrage, Le Crime du Paradis, est sorti aux éditions Calman-Lévy. Merci beaucoup. Merci.